VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 5 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Plus de 80 migrants partis de Libye ont fait naufrage au large de la Tunisie.
Au Soudan, les généraux et la contestation sont finalement parvenus à un accord sur la transition.
Au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé a lancé hier à Mopti, dans le centre du pays, une distribution de 8000 tonnes de céréales.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a rendu hommage hier à l'armée et appelé au rassemblement dans un discours à l'occasion d'Independence Day.
Et en Californie, séisme hier de magnitude 6,4, on déplore des blessés légers.
En sport, ne manquez pas notre journal de la CAN. Pour l'instant, le journal.
Plus de 80 migrants partis de Libye ont fait naufrage au large de la Tunisie. Un responsable de l'Organisation internationale pour les migrations a pu rencontrer un des trois rescapés dans le sud de la Tunisie. Le point avec Eric Manirakiza.
Quatre survivants, trois Maliens et un Ivoirien, ont été secourus par la garde nationale maritime tunisienne, alertés par des pêcheurs. L'Ivoirien décédé hier à l'hôpital de Zarzi et un des Maliens toujours hospitalisé en réanimation selon le Croissant Rouge. Ces naufragés avaient quitté lundi la ville libyenne de Zouara, à 120 km à l'ouest de Tripoli, d'un bateau pneumatique. L'embarcation s'est renversée peu après son départ. L'un des rescapés, un Malien d'une vingtaine d'années, encore en état de choc, dit avoir été sauvé in extremis, mais ne sait pas ce que sont devenus les autres, portés disparus, mais probablement morts noyés. À la fin mai, 75 migrants, majorité de Bangladais, sont restés bloqués plus de deux semaines sur le pont d'un navire au large de Zarzi avant qu'un grand nombre d'entre eux ne soient renvoyés au Bangladesh par l'OIM.
Concernant le bombardement d'un centre de détention pour migrants en Libye, le gouvernement nigérian a annoncé hier que 9 de ses ressortissants font partie des victimes. Plus de 500 personnes ont été tuées et 132 blessées dans cette frappe aérienne. Le point avec Ekia Badou.
Le ministère nigérian des Affaires étrangères a déclaré qu'une mission s'est rendue dans le hangar de Tajoura et a confirmé que 9 Nigérians ont perdu la vie. Il a précisé attendre une liste du centre pour savoir s'il y a d'autres Nigérians affectés par l'explosion. Le président Muhammadu Buhari s'était indigné mercredi de ce bombardement inhumain, demandant une enquête internationale pour porter les responsables de cette attaque horrible devant la justice. Plus de 600 migrants étaient détenus à Tajoura, près de Tripoli, dont 300 sont encore sur place selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM estime que plus de 600 000 migrants, dont beaucoup sont originaires d'Afrique de l'Ouest, sont actuellement en Libye. L'immense majorité d'entre eux sont dans l'attente de pouvoir traverser vers l'Europe au péril de leur vie ou d'être rapatriés dans leur pays d'origine.
Au Soudan, les généraux au pouvoir et les chefs de la contestation sont parvenus ce vendredi à un accord sur l'instance qui doit diriger la future période de transition. Les deux parties acceptent ainsi un partage du pouvoir entre militaires et civils après des mois de tensions grâce à une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine. L'accord porte sur l'instauration d'un conseil souverain avec une alternance entre les militaires et les civils pour une période de 3 ans ou un peu plus, a dit le médiateur de l'UA, Mohamed El Hassan Lebat.
Au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé a lancé hier à Mopti, dans le centre du pays, un programme spécial d'urgence de distribution de 8000 tonnes de céréales. C'est dans cette région frappée par les violences intercommunautaires que se trouve l'essentiel des déplacés au Mali. Monsieur Cissé, qui est en tournée dans la région jusqu'à dimanche, va évoquer avec les populations ainsi qu'avec le commandement militaire la situation sécuritaire. Selon son entourage, il devrait annoncer l'arrivée de renforts dans la région.
En RDC, l'armée congolaise s'est déployée autour du site d'une filiale de la multinationale Glencore à Kolwezi, dans le sud-est du pays. Des mineurs artisanaux affirment avoir été expulsés après un effondrement meurtrier la semaine dernière. Des détails avec Irène et Herman Umbo.
Les forces armées de la République démocratique du Congo sont dans la zone autour de Kamoto Cooper Company, a indiqué la compagnie suisse dans un communiqué. L'armée vient de nous déloger de force dans la mine après le récent éboulement où allons-nous travailler, a déploré l'un des manifestants, Léon Timanga. Certains ont été arrêtés, ont indiqué des sources sécuritaires qui leur reprochent d'avoir saccagé un bureau de la police. Cette intervention fait suite à une présence croissante de mineurs artisanaux illégaux à travers les minière dans la région de Kolwezi, ce qui a conduit au tragique accident le 27 juin 2019. Une quarantaine de mineurs artisanaux sont morts jeudi dernier dans l'effondrement d'une galerie, d'après le gouverneur de la province de Lualaba, Richard Muège. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avait demandé une enquête pour établir les responsabilités.
Au Ghana, une polémique autour du coût des travaux du nouveau Parlement qui devrait s'élever à 200 millions de dollars. Cette polémique secoue le pays. L'affaire enflamme les réseaux sociaux. Le point avec Jacques Aristide.
Le gouvernement ghanéen a emprunté l'argent pour construire le nouveau Parlement, mais pour nombre de citoyens, le pays est confronté à des problèmes plus urgents tels que le manque d'hôpitaux et l'état délabré des écoles et des routes. Une campagne baptisée Drop That Chamber divise des milliers d'internautes sur Facebook et Twitter. La nouvelle chambre, qui pourra accueillir jusqu'à 450 députés, comportera une chapelle, une mosquée, un restaurant et un musée, un projet bien plus ambitieux que l'actuel, qui compte 275 sièges pour 275 députés. La constitution ghanéenne prévoit une augmentation tous les 10 ans du nombre de circonscriptions et donc de députés pour s'adapter aux évolutions démographique. Le ministre des Affaires parlementaires a défendu le projet, mais Osei Kyie Mensah Bonsu indique que le gouvernement ne va pas l'imposer si une majorité de Ghanéens s'y oppose. Une manifestation est prévue le 13 juillet. La rue est très active au Ghana et a notamment joué un rôle déterminant dans la chute de l'ex-président John Mahama.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Ici à Washington, le président Donald Trump a célébré hier, à l'occasion de la fête nationale des États-Unis, l'histoire des Américains pour qui rien n'est impossible, a-t-il dit. Dans son discours, le président Trump a rendu hommage à l'armée et appelé au rassemblement face aux critiques qui lui reprochaient de s'être invité au cœur d'une fête traditionnellement apolitique. Le point avec Jean-Roger Bion.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Notre nation est plus forte aujourd'hui que jamais auparavant, a déclaré le président américain sous les applaudissements de milliers de spectateurs dans un discours entrecoupé de musique militaire et du spectaculaire survol d'avions de guerre. L'imposant Air Force One, le Boeing 747, des présidents américains a survolé le cœur historique de Washington pour annoncer l'ouverture de la cérémonie qui a duré moins d'une heure. Nous serons de retour sur la Lune sous peu et un jour, nous planterons le drapeau américain sur Mars, a promis Donald Trump. Sous le feu des critiques qu'il accusait d'avoir donné une dimension politique et militaire au 4 juillet, Donald Trump a proclamé « Pour les Américains, rien n'est impossible ». Le président américain s'était attiré les foudres des démocrates qui craignaient un meeting de campagne partisan. Le budget de l'événement était également dénoncé par les démocrates, mais selon M. Trump, le coût sera mineur.
Une secousse de magnitude 6,4 a ébranlé hier la Californie, effrayant les habitants de la région, causant plusieurs incendies et faisant des blessés légers dans la localité de Ridgecrest, située à quelques 180 km au nord-est de Los Angeles. On signale encore des secousses secondaires et des milliers de personnes sont sans électricité près de l'épicentre du séisme. Le président Donald Trump s'est voulu rassurant, écrivant sur Twitter que la situation était sous contrôle.
Un navire iranien soupçonné de livrer du pétrole à la Syrie en violation des sanctions contre Damas a été arraisonné jeudi au large du territoire britannique de Gibraltar. Cette opération ferait suite, selon le chef de la diplomatie espagnole, à une demande des États-Unis au Royaume-Uni. Téhéran a convoqué l'ambassadeur britannique en Iran pour dénoncer, je cite, « l'interception illégale d'un pétrolier iranien ».
La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé le nombre extrêmement élevé d'exécutions extrajudiciaires présumées au Venezuela. Son rapport, qui fait suite à sa visite à Caracas le mois dernier, a aussitôt été dénoncé par le gouvernement de Nicolas Maduro comme étant truffé d'erreurs et d'imprécisions. Le Venezuela traverse depuis des mois une profonde crise politique avec la lutte entre M. Maduro et le président autoproclamé Juan Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays dans les États-Unis.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la CAN, présenté par Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Les hostilités des huitièmes de finale commencent ce soir. L'Ouganda et le Sénégal s'affrontent à 19h temps universel. Les Lions de la Teranga sortent des poules esquintées par une défaite face à l'Algérie 0-1 avant de se reprendre devant le Kenya battu 3-0. Face au Corias Ouganda, le Sénégal déplore l'absence de son gardien Edouard Mendy, forfait jusqu'à la fin de la compétition en raison d'une fracture à la main gauche, mais devrait enregistrer le retour de son défenseur central Salif Sané. Le coach Aliou Cissé le sait, la tâche sera difficile.
L'Ouganda, c'est quand même un cran au-dessus. Ils ont des individualités intéressantes. Mia, c'est un très bon joueur. Kadou, c'est un super joueur. Ochoa, c'est un garçon intéressant aussi. Ils sont très structurés, très costauds, surtout défensivement. C'est le Kenya et la Tanzanie un peu plus fort, si je peux caricaturer comme ça.
En face, l'Ouganda dit respecter son adversaire, mais pas le craindre.
On craint aucun adversaire, en fait. C'est du football, il y a 11 joueurs sur le terrain. Je ne vois pas pourquoi on va rentrer sur le terrain en craignant le Sénégal. Maintenant, on sait que le Sénégal, collectivement et individuellement, ça a beaucoup plus d'atouts que nous. C'est un fait, ils ont fait la Coupe du Monde, c'est une très belle équipe avec un très bon entraîneur. Mais bon, quand vous rentrez sur le terrain, si vous respectez l'équipe, sûr, parce que c'est une grande équipe d'Afrique, mais vous craignez pas l'équipe.
Sébastien Desabre, sélectionneur de l'Ouganda. Bien avant ce match Sénégal-Ouganda, le Maroc sera opposé au Bénin à 16h temps universel. Les écureuils vont jouer leur premier match à élimination directe en 4 éditions de la CAN. Ils devront faire sans leur attaquant vedette Steve Mounier, suspendu, et qui ont réussi à accrocher le Cameroun 0-0 et le Ghana 2-2. En phase de poule, une belle lancée sur laquelle le 11 national béninois veut surfer.
Mais on n'est pas des rêveurs, on n'est pas des gens à dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on fait ici ?» Non, pas du tout. On prend les choses match après match. Aujourd'hui, on est là. C'est parce qu'on a mérité, je pense. On n'a pas volé notre place. Ça a commencé depuis longtemps. La garantie que je peux vous donner aujourd'hui, c'est qu'on va faire bonne figure, Chama.
Michael Poté, attaquant du Bénin, le sélectionneur du Maroc le reconnaît. Il faut se méfier des écureuils. Hervé Renard.
Ils ne sont pas là par hasard et ils sont certainement très heureux d'être là. Et maintenant, pour eux, il n'y a plus grand-chose à perdre. Donc, à nous d'affronter ces responsabilités, d'être à la hauteur de nos ambitions surtout. Et ça passe effectivement par une qualification qui est quasiment obligatoire pour nous.
Après ces deux rencontres Maroc-Bénin et Sénégal-Ouganda, le week-end s'annonce intéressant avec de gros matchs en vue. Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué nous parle de ses rendez-vous du week-end et ne manque pas de conseils d'usage. C'est le coup de sifflet.
Bonjour. Avec le début des matchs à élimination directe des huitièmes de finale ce week-end, la Coupe des Nations entre dans sa phase décisive durant laquelle les supporters des différentes équipes vont passer par tous les états et toutes les couleurs. À la vue du tableau des combinaisons obtenues, force est de reconnaître que certains enseignements se dégagent déjà. Tout d'abord, sur le plan statistique, les pays présents sont les meilleurs puisqu'ils ont gagné 28 des 31 trophées mis en jeu depuis la création de la compétition en 1957 et seule la Zambie victorieuse en 2012 et deux antiques vainqueurs, l'Éthiopie et le Soudan, en 68-70, sont absents. L'autre constat est relatif à l'équilibre des parties du tableau des rencontres proposées. On y constate que la première, avec 17 trophées contre 11 à la seconde, pèse plus lourd. La faute est au Cameroun, au Sénégal et au Nigeria qui se sont contentés des deuxièmes places de poule, mais aussi à Madagascar pour son courageux crime de lèse-majesté face au Nigeria. Conséquence, dès les huitièmes de finale, on retrouve déjà un remake des finales passées, avec Ghana-Tunisie de 65, Égypte-Afrique du Sud de 98 et surtout 3 Cameroun-Nigeria en 84, 88 et 2000. Lorsqu'on y ajoute deux derbys régionaux traditionnels, de l'envergure de Cameroun-Nigeria bien sûr, et de Mali-Côte d'Ivoire, avec la passion et les codivers qui les accompagnent souvent, alors la coupe est pleine. Pour toutes ces émotions en perspective ce week-end, il s'avère opportun de rappeler le conseil d'usage, que les grignoteurs se gardent de manger trop salé ou trop sucré, que les buveurs consomment avec modération. Libérer le canapé et la télécommande de temps en temps pour les dames et les plus petits. Avoir le numéro de téléphone de son cardiologue à portée de main. Mais pourtant, user et abuser de sa consommation d'images de fausses. Sur ce, bonne chance à tous et à lundi.
C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, démantèlement à N'Djamena d'un réseau de trafiquants présumés de tramadol. Quelques responsables du ministère des Affaires étrangères seraient impliqués, dit-on, dans le trafic de cette drogue d'une valeur de plus de 7 milliards de francs CFA. Les détails avec André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
L'histoire remonte au mois d'avril avec l'arrestation au Bénin d'un Tchadien pour une affaire de trafic illicite des conteneurs de produits psychotropes d'une valeur de plus de 7,8 milliards de francs CFA en provenance de l'Inde. Le dossier est pendant au tribunal spécial antiterroriste du Bénin. À ce qu'on dit, le directeur général du ministère des Affaires étrangères et le directeur des Tchadiens de l'étranger et de la diaspora seraient intervenus pour libérer leurs compatriotes arguant que ces produits sont une commande du ministère tchadien de la Défense. Depuis, 7 suspects, dont un Togolais, ont été arrêté. Il s'attend le procureur de la République.
On nous a montré le bon de commande qui est établi par l'hôpital d'instruction militaire du Tchad avec l'air caché, falsifié, avec le logo de l'armée. C'est une affaire qui est établie pour ternir l'image de l'armée tchadienne qui a une renommée parce que notre armée ne tire pas sa bravoure de la consommation des produits psychotropes.
Le secrétaire général de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad, Abba Daoud Nandjidé, déplore cette situation qui risque de ternir l'image du Tchad sur le plan mondial.
L'image est déjà ternie du fait que nos forces sont citées et nous disons que ça c'est extrêmement grave.
Moussa Mahamat Mahdi, président de la Dynamique citoyenne pour la protection du droit des consommateurs, déplore lui aussi l'implication de vos responsables du ministère des Affaires étrangères dans cette affaire.
Les stupéfiants et notamment les tramols ont endeuillé longtemps la famille tchadienne. Aujourd'hui, 5 jeunes tchadiens sur 10 ne cessent de se verser dans la consommation de ces stupéfiants. Mais aujourd'hui, ce que nous dénonçons, c'est plutôt les failles qui se trouvent au sommet de l'État. Comment vous pouvez imaginer qu'un directeur serait impliqué dans ce trafic-là. Un directeur général devrait au préalable avoir une bonne moralité.
Selon les autorités judiciaires, ces présumés trafiquants ont évoqué le secret défense pour faire entrer ces conteneurs de drogue au Tchad. Les avocats de ces présumés trafiquants trouvent cette affaire rocambolesque et entendent se prononcer au moment opportun. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique N'Djamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Au Burkina Faso, des moustiques génétiquement modifiés ont été lâchés dans la nature cette semaine dans un village de la région de Bobo-Dioulasso. L'opération entre dans le cadre du projet Target Malaria qui lutte contre le paludisme. D'aucuns ne cachent pas leur inquiétude face à ce qu'ils considèrent comme une expérience dangereuse. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Ce sont 6400 moustiques génétiquement modifiés que le projet Target Malaria Burkina Faso a lâché cette semaine dans le village de Bana, dans l'ouest du pays. Une action qui vise à éliminer à terme la nuisance de l'anophèle femelle, comme nous l'explique le docteur Abdoulaye Diabaté, entomologiste médical et directeur du projet Target Malaria au Burkina Faso.
L'objectif principal, c'était déjà de pouvoir recueillir le maximum de données scientifiques possibles sur ces moustiques, leur mouvement, leur longévité, leur participation aux essais et de pouvoir s'accoupler avec les autres moustiques sur le terrain. Et c'est l'ensemble de ces données-là qui va nous permettre de pouvoir informer les étapes suivantes.
Le projet a commencé au Burkina Faso depuis 2012 et c'est 7 ans après qu'il se déporte en situation réelle, confie le directeur du projet Target Malaria, Dr Abdoulaye Diabaté.
Nous venons juste de franchir l'étape de lâcher des mâles stériles génétiquement modifiés auto-limitatifs. C'est-à-dire que le gène spécifique qu'on a introduit dans ces moustiques pour les rendre stériles, quand les moustiques meurent, le gène meurt avec. Et ces moustiques n'ont pas la capacité de pouvoir transmettre ce gène à leur descendance prochaine. Ça va nous rapprocher de plus en plus en fait vers l'étape finale dans 5 ou 6 ans.
Mais l'opération inquiète. C'est une expérience dangereuse à terme pour les Burkinabés, juge le militant anti-OGM, membre du collectif citoyen pour l'agroécologie à l'étape Soba.
Nous avons fortement des inquiétudes que les 6400 moustiques lâchés puissent réellement engendrer d'autres types de maladies au niveau de la population. Et actuellement, notre objectif est de les empêcher de pouvoir atteindre leur objectif de moustiques forcés génétiquement dans la nature.
L'introduction de ces moustiques génétiquement modifiés inquiète tout aussi le citoyen lambda.
Ça me laisse un peu perplexe. Bon, il y a beaucoup de savants qui sont en train de mener des recherches pour voir est-ce que les OGM même n'ont pas d'autres impacts sur l'environnement, sur la santé des hommes beaucoup plus tard.
Je tiens à saluer cet acte qui est héroïque, mais on ne peut pas savoir par exactitude si
ces uniformes pas fécondés après, parce qu'il y a le climat qui est là, ça peut aussi jouer sur l'organisme et les résultats comme s'attendait peuvent être faussés.
Le projet Target Malaria a pourtant reçu en 2016 de l'Agence nationale de biosécurité l'autorisation pour mener ses travaux. Il n'y a donc véritablement pas matière à s'inquiéter, estime Dr Abdoulaye Diabaté.
Nous avons très bien caractérisé l'ensemble de ce site-là pour avoir une connaissance très approfondie de l'ensemble des différentes espèces de moustiques qui évoluent dans l'environnement dans lequel en fait nous sommes en train de travailler. La dynamique saisonnière et temporelle pratiquement en fait de ces différentes espèces qui sont impliquées dans la transmission du paludisme et le comportement en fait de vol et de dispersion et la longévité de l'ensemble de ces moustiques.
L'expérience cependant n'aurait pas dû se passer de la sorte, analyse le généticien en retraite de l'université de Ouagadougou, professeur Jean-Didier Zango.
On n'a pas fini encore d'expérimenter et on va maintenant commencer à utiliser dans la nature. Ça ne se fait pas. On attend d'avoir les résultats définitifs et on voit si on peut le faire.
Lancé en 2012, le projet Target Malaria vise à modifier les gènes des moustiques transmettant le paludisme. La maladie qui a causé 4000 décès en 2016, dont 3000 chez les enfants de moins de 5 ans, selon le programme national de lutte contre le palu, est aujourd'hui la première cause de consultation à l'hôpital et de décès au Burkina Faso. Issa Napo Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le groupe ivoirien Révolution fait partie de ceux qui ont remis le Zouglou au devant de la scène africaine. Le Zouglou, un mouvement de revendication né au début des années 90 en Côte d'Ivoire, voit de jeunes artistes reprendre le flambeau. Le groupe Révolution, de passage aux États-Unis, s'est confié à Aïd Kiabadou lors de sa visite à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington.
Dans les années 2000 à 2006, le Zouglou n'était pas vraiment écouté par la jeunesse. Donc on s'est dit, en venant à la musique, il faudrait que la jeunesse s'accapare ce genre musical-là. Donc on est venu avec d'autres sonorités. Aujourd'hui, nos frères ont vu que c'était quelque chose de bien qu'on faisait. Donc ils nous ont emboîté le pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir pour nous de voir toute cette génération-là qui suit, remplie des salles en Europe, en Côte d'Ivoire. Tout ça, ça fait vraiment plaisir, quoi.
Dans nos débuts, on était déjà habitués à être indépendants. On faisait tout nos trucs nous-mêmes, toutes nos choses, que ce soit la production, que ce soit le marketing, la distribution, on le faisait nous-mêmes. Signer avec une major, c'est bien dans l'ensemble parce que ça rend plus responsable. Mais voilà, ça rend plus responsable aux yeux des gens et c'est bien beau. Il y a un autre boulot qui est fait, mais en même temps, il y a cette habitude de vouloir faire les choses nous-mêmes qu'on n'a plus. Mais maintenant, il y a trop de procédures.
C'est bien, mais souvent on a l'impression qu'on nous remet encore à l'école. Pour des papiers, les trucs, il faut. Donc,
ça te fait la force parce que quand tu es dans une maison, une grande maison de production, il y a certaines tâches que tu ne peux plus faire toi-même. Parce que nous, on était à la fois nous-mêmes, nos propres managers, avec notre manager général Patrick Audier. On s'occupait de la communication, tout ça nous-mêmes.
Revo, Revo. Désormais, les quatre fantastiques. Love it. Du lundi jusqu'au lundi matin, nous on est calé. Topi de Praia, les gars vont dire que j'ai zaillé. Je vois plus l'eau. Yannick et Kanta, Kézi Zoulé, la poupée, Nene, elle je vois plus haut. Tercelé, Kézi Zoulé, la poupée, Nene, laisse-moi Daïko.
Et vous, votre ressenti, votre feeling par rapport à ce pays, c'est quoi? Que ce soit par rapport à l'architecture, à la nourriture, à la culture, quand vous parlez avec les gens, comment vous ressentez ce pays?
Pour nous, vivre ici, ça ne serait pas mauvais, mais ce n'est pas aussi bon pour nous parce qu'il faudrait entretenir plus notre public en Afrique.
Déjà, pour des artistes comme nous, ça fait déjà toujours plaisir de découvrir de nouveaux endroits.
Ici, quand tu as l'argent, c'est bon.
Ça va, voilà.
Avant de vous quitter, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur votre prochain projet musical?
Avant même déjà d'arriver ici, on a bouclé notre dernier single qui sort dès qu'on retourne à Abidjan. Le titre c'est « Tout va bien ». Et on
peut avoir un petit extrait.
Non, si je respire, c'est que tout va bien. Si je mange à ma faim, c'est que tout va bien. Si je peux danser, c'est que tout va bien. Alors la famille, est-ce que tout va bien?
problème prévient pas. Les années ne finissent pas. L'argent ne se fait pas. Tous les rêves se réalisent pas.
Le groupe Révolution fera un dernier concert dans l'état du New Jersey le 7 juillet.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les États-Unis étaient donc à l'heure des festivités patriotiques hier. Le pays a marqué l'Independence Day, commémorant la signature de la Déclaration d'indépendance qui a eu lieu le 4 juillet 1776. En plus des parades et des feux d'artifice habituels, le président Donald Trump a ajouté une dimension militaire à la fête nationale avec des blindés placés en évidence à Washington et il a prononcé un hommage à l'Amérique depuis les marches du Lincoln Memorial, monument à la gloire du 16e président américain. Mais faisons une petite immersion dans l'histoire pour se souvenir de cette date lorsque ce pays devenait indépendant de l'Empire britannique. Avec le montage technique de Lionel Gahima, Jacques Aristide nous fait revivre ces moments forts.
Neither aiming at originality of principle or sentiment.
Le 4 juillet 1776, la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique est signée à Philadelphie. Pour la Grande-Bretagne, c'est une déclaration de guerre de ses 13 colonies d'Amérique. Les mois qui suivent sont sanglants. La défaite de l'armée de George Washington paraît inéluctable face aux puissantes forces britanniques. Mais les patriotes ne jettent pas les armes et continuent à combattre jusqu'à la victoire de Yorktown. Le chef d'état-major Washington en profite pour déployer ses troupes d'élite qui parviennent à achever les Anglais. En 1783, l'Amérique est libre, une nouvelle nation est née. Les Américains s'en souviennent chaque année.
Ouais, c'est la manière américaine, non? Nous voulons faire quelque chose de grandiose, de spectaculaire.
Je suis fier et reconnaissant envers ceux qui ont servi notre pays et j'apprécie vraiment ce qu'ils ont fait, ainsi que leurs familles.
Dans la baie de New York, la frégate l'Hermione, réplique de celle de Lafayette au XVIIIe siècle. Lafayette, avec 242 hommes à bord, avait débarqué en 1780 pour apporter l'aide de la France à la Révolution américaine. Le majestueux trois-mâts a déjà eu l'occasion de participer à la fête du 4 juillet. Le capitaine Yann Carillou.
Je pense qu'être ici pour le 4 juillet, le jour de l'indépendance, c'est très très fort en symbole, puisque évidemment, on pourrait dire que ça marque complètement le voyage de 1780, puisque le but de l'Hermione, c'était d'apporter l'indépendance à ce pays. Et c'est ce que l'Hermione a fait avec Lafayette.
Les Américains ne manquent donc pas de marquer d'une pierre blanche cette date mémorable de leur histoire, un 4 juillet qui est bien évidemment l'occasion des feux d'artifice, des défilés ou si vous préférez les parades, des barbecues, des pique-niques et le tout complété par des matchs de baseball. Les uns et les autres n'oublient pas non plus de se souhaiter Happy Fourth, joyeuse fête de l'indépendance.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Darrell Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.